Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
De retour sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Du lundi au vendredi de 11h à 12h30, c'est votre nouveau magazine Feel Good, Conso, Mieux Vivre. Et Julia, on va démarrer à présent la séquence tendance de cette émission.
Oui, et d'ailleurs Mélanie, nos deux chroniqueurs sont là à nos côtés en studio. Benjamin Lévesque, l'un de nos monsieur beauté dans cette émission. Aujourd'hui, je crois que vous venez nous avouer que ça y est, vous êtes vegan.
Eh oui, Julia, bah écoutez, je suis la preuve en toute humilité qu'on peut être beau et vegan, parce que ça y est, les cosmétiques deviennent vegan.
Bon, pour démarrer cette séquence, beau, on verra, hein, Benjamin, c'est pas à vous de juger. Pour démarrer cette séquence, c'est à vous de jouer, Soizic Belin. Je crois qu'avec la tendance que vous nous présentez, on va pas s'ennuyer.
Tout à fait. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du rire, vaste programme. C'est un peu le roi du divertissement, l'astuce tout trouvée lors d'un rendez-vous galant. Ne dit-on pas femme qui rit à moitié dans son lit. Et puis, on va pas se mentir, avec l'actualité et la crise sanitaire, rire, eh bien, ça fait du bien.
C'est clair.
Alors, il y en a pour qui c'est un métier de faire rire, même si on a parfois du mal à envisager que l'on puisse vivre de faire rire autrui, eh bien, c'est le cas des humoristes. Ils et elles sont de plus en plus nombreux.
Non, mais il me semble même qu'une académie d'humour vient d'ouvrir ses portes à Paris.
Voilà, deux jeunes femmes, Aude Galliou et Perrine Blondel, se sont lancées dans l'aventure. En allant sur la page d'accueil de leur site, on peut lire la chose suivante, faire rire ne s'apprend pas, ce qui peut paraître un comble hein, pour une école du rire. Le programme consiste donc à accompagner ces graines de talent et non à les formater, ceux qui pourraient donc être les humoristes de demain. Et avec le nombre de scènes ouvertes qu'il y a à Paris et dans de nombreuses villes en France, je me suis permise de leur demander pourquoi ouvrir cette formation.
Parce que faire rire, c'est sérieux. Nous prenons ça très au sérieux. Nous avons un programme complet, une formation intensive d'une année qui s'articule autour de trois grands modules. L'écriture, le jeu, la mise en scène, à quoi on ajoute des coachings individuels et des masterclass. En tout, nous avons 594 heures de sessions de travail. C'est 4 jours par semaine sur 3 trimestres.
Ben dis donc, c'est du sérieux, mais on peut aussi, Soizic, faire rire sans faire appel à l'humour.
Tout à fait, vous n'êtes pas obligé d'aller dans une salle de spectacle pour vous fendre la poire, vous remuer les zygomatiques ou vous faire trembler le diaphragme. Ça, le docteur Madan Kataria l'a bien compris. Alors pour la petite histoire, ce médecin généraliste indien est marié à une prof de yoga, Madhuri Kataria, jusque-là rien d'extraordinaire. Ils inventent ce que l'on appelle plus communément aujourd'hui le yoga du rire. On est en 1995, des inconnus se rejoignent dans un jardin public. Au départ, ça ressemble à une scène ouverte où les uns et les autres rivalise de blagues plus ou moins abouties. Et puis, le docteur Madan se rend très rapidement compte que le rire spontané et le rire provoqué ont la même influence sur le corps et l'esprit. Naissance du yoga du rire. Alors, il utilise des techniques de rire intentionnel, un rire provoqué qui n'a recours ni à l'humour, ni à la comédie, mais parfois à la gestuelle gaguesque.
Ah, c'est drôle, mais plus concrètement, à quoi on peut s'attendre lorsque l'on parle du yoga du rire?
Alors, les séances dépendent évidemment des animateurs, hein, mais la plupart du temps, il y a un moment d'échauffement des cordes vocales, du travail de respiration du diaphragme. Après, les rires s'enchaînent, c'est ludique et thérapeutique, il y a un petit côté théâtral. Il y a le rire du géant, le rire des maîtres du monde, le rire de la sorcière, le rire du timide, du milkshake.
Le rire du milkshake.
Le rire du milkshake, c'est à base de gestes, de gloussements, et c'est à la base de ho 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 et de ha ha ha. Ah. Voilà, il y a des travaux de respiration.
Bien sûr.
Bon, c'est du yoga, hein. Et le rire, comme vous vous en doutez, a des bienfaits reconnus. Il augmente l'apport d'oxygène dans le corps et le cerveau, ce qui provoque un regain d'énergie, et il aurait aussi un impact hormonal puisqu'il augmenterait la production d'endorphines. Et ces clubs du rire se sont multipliés, le concept s'est répandu aujourd'hui, ils sont présents dans plus de 53 pays, on en compte plus de 5000 fameux clubs dédiés à cette forme de yoga très particulière. Alors dans la même veine, j'ai rencontré Corinne Cosseron, une française cocorico.
On est marrant finalement nous aussi les Français.
Oui, elle a créé un autre concept qui se sert du yoga du rire mais qui s'appelle la rigologie, c'est une rigologue. On l'écoute nous expliquer sa particularité.
L'idée principale de la rigologie, c'est que pour se reconnecter à sa joie de vivre authentique, il faut accepter de libérer l'ensemble de ses émotions. Sa tristesse, sa colère, sa peur, sa frustration. Et c'est à ce prix-là qu'on retrouve son rire authentique et sa joie de vivre.
Oui, parce qu'il y a une chose très importante hein, qu'il ne faut pas négliger et qui est un prérequis si l'on souhaite s'abandonner au yoga du rire et à la rigologie, c'est l'état de bien-être initial. Si vous êtes déprimé, bloqué par des émotions négatives, rire et lâcher prise ne sera pas une évidence. C'est là qu'intervient la rigologie. Le rire n'est pas une émotion, ça en est l'expression. La joie, elle, est une émotion. Le but est donc de chasser et de casser ces différents blocages sans passer par la case psychothérapie, d'arriver à un état neutre par des exercices de libération des émotions et ensuite d'être à nouveau perméable au rire. Les rigologues interviennent, comme vous vous en doutez, dans différentes associations, notamment qui viennent en aide aux personnes atteintes d'un cancer ou de la maladie de Parkinson. Le rire est donc un accélérateur de relations humaines, c'est une expression communicative comme le fait de bâiller. Il nous rassemble et pour finir là-dessus et que nous puissions surtout ne pas nous prendre au sérieux, je vous laisse avec les mots et le rire d'Henri Salvador.
Alors, imaginez-vous que l'autre jour, j'ai ri. Et après avoir ri, j'ai constaté que les gens m'ayant entendu rire, on rit de m'avoir entendu rire. Évidemment, ce serait trop fatigant de rire comme ça tous les soirs, surtout fainéant comme je suis. Alors j'ai enregistré mon rire sur un disque, et avec votre permission, nous allons m'écouter rire.
C'est contagieux,
c'est
hein
communicatif tellement. Merci beaucoup, Joséphine Belin, pour cette chronique et cet extrait qui fait toujours du bien. Mais vous restez quand même un petit peu avec nous parce que ce que Benjamin va nous présenter. Oh, mais il est contagieux, c'est clair. Va nous présenter, va vous séduire peut-être. Vous êtes végane, vous, Joséphine, peut-être, je ne sais pas.
Non, je ne suis pas végane.
Non, je n'ai pas végane.
Bon, est-ce qu'on peut rire et être végane? C'est la question. On va parler véganisme et beauté avec vous, donc Benjamin. Alors, on connaissait le régime végane, c'est-à-dire ne plus manger de viande et tout ce qui provient d'un animal. Mais aujourd'hui, vous nous expliquez qu'être végane, ça va même beaucoup plus loin. Même dans la routine beauté, on peut être végane. Mais alors, c'est quoi un cosmétique végane? Rassurez-moi, il n'y a quand même pas de viande dans les produits classiques.
Mais non, Julia, je vous rassure. Il n'y a jamais eu de steak haché ou de poisson dans votre crème ou votre maquillage. En fait, un cosmétique, il est vegan quand il n'y a aucun ingrédient d'origine animale dans la formule. Alors ça fait une vingtaine d'années hein, quand même que les marques sortent des cosmétiques vegan, mais il y a eu un boom, c'est vrai, ces derniers temps. Il y a une vraie prise de conscience hein, du fait notamment des scandales dans les abattoirs. Et on ne le sait pas toujours, mais on utilise énormément de produits issus des animaux pour fabriquer notre maquillage.
Dites-nous lesquels, hein, moi je veux savoir.
Eh bien, vous avez par exemple tous les produits issus de la ruche, hein, le miel, et qui est utilisé dans les soins ou certains shampoings pour son côté hydratant. Vous avez la cire d'abeille que l'on retrouve beaucoup dans les rouges à lèvres. Vous savez, c'est ce qui donne de la texture, un côté fondant. Dans vos savons aussi ou vos crèmes pour le corps, vous l'ignorez, mais on peut y ajouter du lait d'anès. Et là encore, ça provient d'un animal. Et puis dans le monde marin, eh bien, pendant longtemps, certaines marques utilisaient de l'huile de foie de requin dans les crèmes de jour ou les fond de teint. Ne faites pas cette tête, Julia, parce que c'est une huile, en fait, c'est un émollient et il adoucit la peau.
Oh oui, d'accord. Mais moi, Benjamin, par exemple, je mets beaucoup de vernis. Est-ce que je fais du mal à un animal?
Alors, ça dépend de la couleur. Je ne sais pas quelle couleur vous avez. Non, c'est plutôt
rose pâle,
mélanie, sosique.
Non, j'en ai pas aujourd'hui.
Alors, c'est surtout le rouge vif. Hein, c'est du rouge carmin. Là, ce n'est pas du tout vegan, puisqu'en fait, ce pigment est fait à base de cochenille. Alors, je ne sais pas si vous savez, c'est un test de culture
non. G. Mais moi, je ne mets que du rouge, alors ça m'embête. C'est la couleur la seule que j'utilise.
Alors, c'est un insecte à carapace hein, qui vit dans des zones chaudes et humides et que l'on fait en fait broyer principalement les femelles fécondées parce que c'est elles qui contiennent davantage de pigments rouges. Ouais. Et donc, on en retrouve, donc, comme je l'ai dit, dans les vernis et aussi les rouges à lèvres.
Benjamin, on les remplace par quoi ces ingrédients d'origine animale, là, comme ces femelles fécondées? On va les remplacer par quoi?
Eh bien, à la place, en fait, les marques vont utiliser des ingrédients synthétiques, hein, donc des formules chimiques en laboratoire, ou utiliser des composés naturels. Un exemple avec Cheryl Gava, la créatrice de la marque originale.
Dans le savon, on va retrouver du sodium de tallowate. Donc quand je vous dis ce nom-là, vous n'avez pas du tout l'impression que c'est une origine animale. Or, c'est originaire du bœuf. Donc on utilise de la graisse de bœuf pour faire cet ingrédient. Et c'est très très utilisé. C'est un détergent utilisé dans les savons aujourd'hui. Mais qu'aucun consommateur n'aurait idée de l'origine exacte de cet ingrédient. Donc en fait, cet ingrédient-là, en l'occurrence, il peut être remplacé par d'autres ingrédients d'origine naturelle, végétale, qui sont par exemple l'huile d'olive, d'autres huiles, alors l'huile de palme, mais qui est un peu décriée aujourd'hui, qui pourrait complètement remplacer cet ingrédient d'origine animale.
Et alors pour revenir sur la cochenille, hein, cet insecte que l'on broie pour obtenir du rouge carmin, eh bien là on pourra utiliser des pigments végétaux, hein, des plantes pour fabriquer du rouge, mais ça sera jamais la même couleur, hein, pas jamais du rouge vif. Si on veut reproduire la même couleur, là il faudra mélanger des produits chimiques, ce qui veut bien dire, et on fait souvent l'erreur, que vegan ne veut absolument pas dire naturel, comme l'explique Valérie Debray, la directrice marketing de Florence Nature.
Un rouge à lèvres vegan, il peut être tout à fait non naturel et être truffé d'ingrédients synthétiques, de colorants synthétiques, de corps gras pétrochimiques et de conservateurs. Ça n'a rien à voir. Et par contre, la cosmétique bio, elle peut être non végane. La cosmétique bio, elle autorise les matières animales pour autant que la formule totale du produit respecte la charte bio concernée. Mais vous voyez, ça n'a rien à voir. Il y a souvent confusion chez les gens entre vegan et bio.
Alors Benjamin, vous nous avez parlé des crèmes, du maquillage et des savons, mais est-ce que dans les parfums, il y a des ingrédients d'origine animale ?
Et bien sûr Julia, la lyraceum hein, par exemple, qui provient des excréments d'un petit rongeur d'Afrique de l'Est.
Pour nous parfumer, sérieusement ?
Oui, ça apporte une odeur de cuir, un côté fumé au parfum. Un autre exemple avec l'ambre gris. Alors ça, il faut aller chercher dans le cachalot, hein, c'est un liquide noir qui est sécrété par son estomac. C'est très odorant et un petit peu salé, mais là aussi,
Vous voulez nous faire vomir.
Non, je suis désolé, là, mais il est possible de trouver des parfums 100% vegan. En fait, on remplace les ingrédients d'origine animale par des composés de plantes, comme l'explique Maxime Garcia-Janin, le fondateur des parfums Sillage Paris.
Dans le jasmin, il y a une molécule qui s'appelle l'indole, qui est une molécule qui est très, justement, qui peut être très animale, sentir un peu la transpiration, quelque chose de très sensuel, très charnel, qui, isolé, peut recréer des odeurs cuirées. Nous aussi, pour créer ces odeurs un petit peu, on va dire, sensuelles, cuir, on aime bien utiliser l'osmanthus. C'est une fleur qui a, quand vous l'extrayez, en fait, a presque une odeur de crottin de cheval quand elle est extraite en pur, donc qui peut redonner un petit peu ce côté très animal, voire fécal, des odeurs animales traditionnelles, mais que vous allez pouvoir extraire à travers d'une fleur, et donc qui, réutilisées à faible dose, peuvent redonner ce côté charnel, sensuel, qu'apportent les matières animales.
Bon appétit pour finir, Benjamin. Si un cosmétique est vegan, ça veut aussi dire qu'il n'a pas été testé sur les animaux. C'est très important.
Exactement. Alors aujourd'hui, tous les cosmétiques sont vegan de ce point de vue, puisque depuis 2013, il est interdit, en tout cas dans l'Union européenne, de tester sur des animaux. Mais avant, c'est vrai, on le faisait, on appliquait des crèmes sur la peau de lapin ou de souris pour justement tester l'irritation des produits. Il y avait aussi des expériences dans les yeux de poule pour étudier de possibles lésions au niveau de la cornée. Mais aujourd'hui, c'est terminé, je vous rassure. Tous les tests se sont faits sur des peaux reconstruites en laboratoire, de la fausse peau, quoi.
Ah bah c'est super, quelle bonne nouvelle. Merci beaucoup Benjamin, merci à vous également Swazik. On vous retrouve tous les deux la semaine prochaine pour d'autres tendances. Et dans un instant, Mélanie, place à la santé dans Bienfait pour vous.
Oui Julia, avec un sujet très important. Pourtant, beaucoup de femmes qui nous écoutent vont tendre l'oreille, car en France, toutes les 30 secondes, il y en a une qui en est victime de quoi ? De la cystite. Mais aujourd'hui, surtout, c'est ça qu'on va vous proposer, c'est de l'éviter, de la prévenir, car oui, c'est possible. A tout de suite sur Europe 1.
Bien fait pour vous sur Europe 1.